20h01 sur Radio G tout de suite. Vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Et il y en a évidemment, que ça soit autour d'Angers ou même dans le monde. Il s'est passé pas mal de choses évidemment, pas mal de gros événements sportifs, notamment un en particulier qui nous a tous fait un peu mal ce week-end. On sera là pour revenir un petit peu sur justement cette défaite de l'équipe de France de rugby à la Coupe du Monde. Mais avant ça, il y aura les actualités locales, vous en avez l'habitude. Et puis surtout, avant ça, je vais présenter ceux qui m'accompagnent ce mardi soir. À ma gauche, Faustin. Faustin, salut, ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va toujours très bien. Pas de nuage pour moi ce week-end, parce que l'équipe contre qui nous avons joué a déclaré forfait.
Ah.
Ça me perd de nous sûrement.
Oui, peut-être. Mais, oui, bah, non, franchement, c'est très probable.
Victoire 20-0 finalement, ça me fait ça. Pratique. Et demain, match amical exceptionnel contre la Nationale 2 de Avrier.
La féminine ?
Ouais.
Ah ouais, exactement. Intéressant ça.
On va voir ce que ça a donné.
Ça va être pas mal, attention, ça joue bien.
Ouais,
pour avoir vu un peu l'équipe, ça joue bien.
On va voir, ça va être serré à mon avis.
Tu es toi en
U20.
U20, c'est ça. Ah voilà. Oui, quand même. Donc ouais, ça va être très intéressant.
Merci.
Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va ?
Salut Alex, et salut à tous. Moi j'ai un week-end qui a bien commencé parce que on va monter en élite. Enfin, on est monté en élite du coup.
Ok. On aura départemental.
Ouais, voilà, juste au-dessus de départemental, entre régional et départemental.
Donc on rappelle, tu fais du foot à Montreuil-Junier.
C'est ça.
et du coup voilà, voilà. C'est un bon début de saison du coup.
Mmh. Avec... Et puis dimanche,
Match.
La déception.
Ah, ça a perdu ?
Le match de rugby.
Ah, le match de rugby, tu parlais du match de rugby. Je crois que Non. Oui, c'est vrai que oui, forcément, grosse déception. Il y en a un autre qui a été, j'imagine, très très déçu, c'est Cédric qui est à ma droite. Salut Cédric, comment ça va ? Enfin, comment ça va ? T'as pas les mots encore.
Je sais pas encore. Non, mais. Écoute, on a eu une équipe de France victorieuse sur deux. C'est ça qu'il faut voir.
C'est plutôt pas mal, oui. C'est, on a une qui a gagné, enfin, qui s'est fait plaisir.
On se consolera avec l'actualité locale qui a été plus glorieuse.
C'est voilà. Vrai. Non, il y a des bons résultats, même si le n'a pas joué, mais.
Tout au long de ce week-end, mais non, dans l'ensemble, un bon week-end quand même.
C'est ça, oui, quand même, dans l'ensemble. Si c'est mal terminé, on va dire.
Ouais.
C'est ça,
un
on aura
point. Un point,
un seul petit point, c'est vraiment.
Et nous, on aura beaucoup de points.
C'est ça, on va développer pas mal de choses sur ce match. Donc, au programme de l'émission, d'abord, comme je vous le disais, on va revenir sur les informations locales. Faustin, tu nous feras un point sur le basket, puisque tu as énormément de bons résultats à nous communiquer.
Ouais, là, c'est fructueux.
C'est du 100%. Ensuite, ce sera au tour de Clément de nous faire une petite chronique l'actualité, on va dire, sur l'histoire du rugby, la création,
les règles, tout ça.
Donc, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le rugby pour ceux qui veulent encore suivre cette Coupe du Monde, puisqu'elle n'est pas terminée, à part pour l'équipe de France. Mais évidemment, c'est toujours très intéressant de faire le point là-dessus. Ensuite, la pause musicale. On reviendra donc en long, en large et en travers sur ce match France-Afrique du Sud, cette défaite 28-29 des joueurs de Fabien Galthié. Et puis ensuite, on vous parlera des actus internationales. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y a notamment, comme tu le disais Cédric, le football. Et puis voilà, on verra sur les autres petites infos qu'on a. Écoutez, on va commencer tout de suite avec les actus locales. On va commencer par le foot, puisque même si le SCO n'a pas joué, il y a quand même de l'actualité dans le département avec les deux équipes, hein, vous le savez, qui jouent en 3e division nationale, féminine et masculine. C'est donc, on va commencer par le SO Cholet qui joue en N1. Il faut savoir que donc le coach monténégrin Jovanovic qui était assez atypique puisqu'il ne parlait pas un mot de français. Il a été donc licencié par le SOC et donc c'est Antariaya, l'ancien joueur du SCO, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui va arriver en intérim mais qui va ensuite intégrer le staff du SO Cholet. Alors on sait aussi qu'au SO Cholet il y a Roland Courbis qui est conseiller mais qui on le sait ne viendra pas donc même en intérim pour prendre l'équipe première de Cholet. Et pour rappel donc Cholet qui est actuellement avant-dernier de National avec 3 victoires et 7 défaites. Et puis surtout on rappelle que c'est assez compliqué, même si le championnat est très dense et très serré, il y a quand même cette crainte puisqu'il y a 6 descentes en N2, donc il faudra une belle remontée pour le SO Cholet, on l'espère pour les Choletais. Et puis enfin la Croix-Blanche qui jouait ce week-end en Coupe de France féminine face à Beaucouzé, une équipe de départemental 1. Ça s'est passé sans souci, on aurait pu voir un score plus fleuve, mais ça s'est terminé quand même sur un beau 7-0 pour les joueuses de Valentin Rey. On va enchaîner tout de suite avec donc les Ducs d'Angers qui ont connu une très belle semaine avec cette victoire mardi dernier 5-0 contre Nice, et puis ça a enchaîné juste après avec une courte victoire contre le Ormandie anglais avec victoire 2-1, et ils rejouent, ils vont se déplacer du coup sur la patinoire d'Anglais ce soir. Donc voilà,
on est tranquille pendant 30 minutes, normalement il y aura pas de breaking.
Ah, c'est
non, parce que match à 20h30 ce soir. Oui.
Match à 20h30, et c'est vrai que les dernières semaines, souvent il y avait des...
Ah bah ça enchaînait.
Et puis surtout,
ça enchaînait vite.
Ils marquaient de plus en plus tôt dans le match.
C'était intéressant là-dessus.
Fallait être évidemment très réactif. Et puis il y aura un autre match peut-être qu'on pourra suivre pendant l'émission. C'est le derby des Loups d'Angers qui vont jouer contre la Romagne. On parle là de tennis de table. Et voilà, ça va être c'est le choc un petit peu de cette journée de Pro A. Donc voilà, les Loups d'Angers contre la Romagne. Donc c'est deux clubs locaux qu'on va pouvoir suivre sur cette émission. On lisait, Faustin, tu as pas mal de bonnes nouvelles en basket. Quelles sont-elles ? J'ai envie de dire.
Bah, je vais démarrer par l'EAB, parce que déjà avant le premier match de championnat, on a appris l'arrivée de Tommy Gezala, pour remplacer Kevin Lavieille qui était parti la semaine dernière. Donc, je suis ravi de voir que le club a très bien géré cette situation. J'avais mis quelques inquiétudes la semaine dernière, on va dire, suite au départ de Kevin Lavieille. Bah, apparemment, le club avait déjà tout préparé, j'ai l'impression, avec l'arrivée de Tommy Gezala pour le remplacer. Et c'est une situation qui a payé avec cette victoire face à Fos-sur-Mer qui descend tout juste de Pro A, 92 à 88 au bout de la prolongation. Après des débuts très difficiles en Leaders Cup, ça fait plaisir de voir les Angevins gagner. Pour l'UFAB maintenant, c'était le retour de l'Europe pour les Angevines qui a là aussi très bien commencé avec la large victoire 96 à 50 face à Kibirkstis.
Ah, t'as réussi.
Ouais, c'est, ouais.
Bravo. En soi, je sais pas si t'as réussi, mais en tout cas, tu l'as dit.
Je suis pas sûr, mais bon, on va dire que c'est ça. Voilà, donc premier match référence aussi, je pense, pour la jeune Marine Dursus avec ses 18 points, 4 rebonds, 6 interceptions pour 24 d'évaluation. Les Angevines ont ensuite joué leur quatrième match de championnat qui s'est soldé sur une nouvelle victoire, donc 70 à 64 contre Landerneau, et se place à la 8e position avec 2 victoires et 2 défaites. Elles jouent aussi demain un nouveau match de Coupe d'Europe contre Galatasaray.
Et on y sera.
On y sera effectivement. Cédric, tu as pris tes places ?
Ouais, je serai en tribune pour justement voir un peu ce que ça donne en fait l'aventure européenne, parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'occasion de voir des matchs en Coupe d'Europe, quels que soient les sports, comme ça, ouais, facilement.
Oui, sur Angers, oui.
Sur Angers en plus. Et surtout contre un bel adversaire, je pense que ça va être une belle bataille, hein, quand même. Galatasaray qui sort de finale de l'année dernière. Qui perdent contre l'ASVEL, ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Donc voilà, il y a peut-être un coup à faire à domicile, justement.
Ça va pas être la même affaire que contre Kibirkstis.
Non, ça ouais, c'est sûr. Ça. Mais en tout cas, ça risque d'être beau à voir, je pense.
Ouais, beau à voir. Et puis T'avais fini, il manque une équipe, non?
Il manque Cholet.
Il manque Cholet, pardon. Ouais.
Cholet qui a fait une semaine, on va dire, mitigée pour les hommes de Laurent Villa, qui ont commencé par une défaite, la seule des clubs du Maine-et-Loire, 90 à 78 contre Strasbourg. Puis ils ont enchaîné une victoire ensuite, 90 à 81 contre Limoges. Match dans lequel on a vu le jeune prospect de 18 ans, Tidjane Salone, pouvoir s'exprimer avec notamment un magnifique poster dunk. Ce qui est de très bon augure pour le club ainsi que pour son développement personnel. Il joue ce soir en Europe contre Tenerife.
Ce sera intéressant à suivre.
Ouais.
C'est le début. Enfin, ça a déjà commencé à la Ligue des Champions, mais
ouais, c'est le
il faut qu'il parte sur évidemment un bon début de saison européen. Ouais. Sur l'UFAB, c'est vrai que il y a eu un match quand même compliqué. Face à une équipe qui était quand même prenable, Landerneau. Et c'était Aurélie Bollin qui disait que voilà, la première mi-temps, les joueuses n'y étaient pas forcément. Elles ont réussi quand même à se battre. Encore une fois, ça montre toute leur abnégation et cette rage de vaincre qu'elles ont inculquée par la coach notamment.
La qualité bulldog dont elle nous avait parlé.
C'est ça, exactement. Et donc, ça peut permettre de sortir de ces situations. Et c'est vrai qu'au final, le compteur repart à égalité, on va dire, à deux victoires, deux défaites. Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne chose.
Ouais, et puis c'est vrai que les deux matchs précédents n'étaient pas forcément les plus simples à gérer.
Ouais.
Quand tu sais que tu joues des facilement top 3 du championnat. En soi, il y avait des défaites, mais quand on regardait les scores, c'était pas forcément des gros scores comme on a pu voir dans les années précédentes. On voit que ça le travail paye, ça grandit, le style de jeu, je pense, a quand même bien changé du coup. Ça se ressent en termes de
ça s'est adapté, hein,
de score. Et puis maintenant c'est de prendre son petit rythme. Là on va rentrer dans les périodes où il va y avoir pas mal de matchs, enfin deux matchs dans la semaine. Donc en tout cas voilà, c'est encourageant.
Ouais, puis là en plus on a vu c'est la capitaine Kiki Linga qui a un peu pris les devants. C'est, il me semble, 24 points, 9 rebonds, plus de 20 d'évaluation aussi. Donc, c'est peut-être elle qui a su remotiver un peu les troupes après la deuxième mi-temps. Quoi.
Exactement, puisqu'on rappelle qu'elles ont perdu quand même leur leader technique, Alexis Peterson, l'année dernière. C'est vrai que tu nous diras demain si l'équipe est rodée pour l'Europe.
On va essayer de
ce sera quand même un gros défi quand même, hein, face à Galatasaray.
On espère une très belle aussi ambiance.
Bien sûr, je pense, oui, ça peut être pas mal d'avoir cette belle ambiance, même si c'est en semaine. On verra si Jean-Claude arrive à vibrer demain soir. On va parler maintenant de handball avec le SCO qui a perdu jeudi dernier. C'était à domicile contre Besançon, 29 à 34. Le SCO qui avait fait un début de match correct avant de s'écrouler dans cette première mi-temps. Et puis voilà, cet écart au score qui n'a pas pu se réduire pour voir le SCO revenir sur les doubistes. Besançon, c'est dans le Doubs. Donc le SCO qui est 8e actuellement de Pro League avec 3 victoires et 3 défaites, ça reste quand même assez honorable pour le SCO qui, on rappelle, est promu dans cette deuxième division nationale. Voilà pour les infos locales. C'est vrai qu'on rappelle, tu nous redonneras le score du match des Ducs d'Angers.
Dès qu'il y a un but, comme d'habitude.
Exactement.
Priorité au direct.
Il faut être près des 21h31, hein, parce que apparemment maintenant ça marque très vite. Ouais. Du côté des
20h. 20h parce qu'on fait pas épongation.
T'as dit 21h.
T'as dit 21h30.
À 21h30, pardon. 20h31, pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est pour ça.
Et encore, quand tu dis 31, il est peut-être trop tard.
Oui, peut-être.
Ça va être à 20h30 déjà, et 15 secondes.
C'est ça.
Comme ça, on rebattra le record qu'on a acquis.
Il y a peut-être déjà 2-0 à 31.
C'est ça.
Bref, voilà un peu pour les infos locales. On va passer maintenant à la chronique que Clément nous a préparée sur l'histoire du rugby. Et puis, tu vas nous expliquer un peu tout ça.
Voilà, les bases du rugby. Donc, on va retourner au Moyen-Âge, où l'ancêtre du rugby se nomme la Soule. La Soule, dont le but était, il y avait une vessie de porc à égale distance de 3 villages. Et le but, c'était de ramener cette même vessie de porc dans son village. Et lorsqu'on arrivait à ramener cette vessie de porc bah à la maison, on va dire ça comme ça, on était nommé village dominant de la région, enfin peut-être pas de la région mais des alentours de ces trois mêmes villages. Donc pour ça tous les coups étaient permis, on avait le droit de se faire des passes, de se mettre des coups de poing, enfin tout ce que vous voulez. Il y avait parfois même des morts et ce jeu a évolué. Et il se jouait entre villageois qui se disputaient un ballon. Et comme je disais tout à l'heure, c'était souvent de manière violente. Et ils devaient le déposer dans un embut. Et en Angleterre, son cousin était beaucoup pratiqué et il se nommait le mob football. Et c'était vraiment pas mal pratiqué. Et c'était un peu ça ressemblait énormément au football qu'on connaît de nos jours. Et un jour, un élève du nom de William Webb Ellis a pris le ballon à la main, tout simplement, et puis il l'a déposé dans le camp adverse, dans le but adverse. Et c'est là qu'il a eu l'idée de créer le rugby. Et beaucoup disent que c'est une légende, mais du coup, la création du rugby vient de là-bas. Et ensuite, à partir de 1854, les règles sont fondées. Et elle se développe jusqu'en 1900 pour arriver à nos règles d'aujourd'hui qu'on connaît, dont les bases, vous les connaissez sûrement, mais c'est la passe en arrière, le jeu au pied, où grâce au jeu au pied, on peut aller vers l'avant. Par contre, on a le droit de jouer vers l'avant au pied, la mêlée, la touche que vous connaissez déjà. Et il y a aussi beaucoup de règles beaucoup plus complexes. Dont je vais pas vous parler puisque ou alors tout à l'heure je vous poserai des questions si jamais il y a des règles que vous comprenez pas trop et tout, j'essayerai de vous expliquer, pardon. Bon, du coup, pour marquer des points au rugby, parce que j'ai pas parlé de ça, on peut soit marquer un essai, soit tirer dans l'embut entre les deux poteaux, ou faire un drop. Et dans ce cas-là, le drop, c'est quand la partie se joue, on a le droit de tirer dans l'embut avec le pied et ça nous fait 3 points. Pour l'essai, ça nous fait 5 points et on peut transformer cet essai en mettant au pied entre les poteaux et ça nous fait 2 points de plus. Donc un essai transformé, ça nous fait 7 points. Et pour la pénalité, qui je vais vous en parler tout à l'heure, donc c'est souvent des fautes et on peut aussi marquer 3 points en tirant dans l'embut. Donc pour les fautes, il y a une multitude de fautes au rugby qui sont aussi très complexes à comprendre. Et les plus connues sont la passe en avant qui procure une mêlée à l'équipe adverse, une mêlée qui oppose 8 joueurs face à face, dont il faut pousser tout simplement. Et il peut y avoir d'autres fautes comme le plaquage haut où le plaquage n'est pas réglementaire et au-dessus de la tête, plein de règles comme ça. Après, le rugby, c'est quand même un sport qui est assez pratiqué parce qu'il mélange beaucoup de choses comme la technique avec des gestes à la main qu'on peut voir qui sont assez beaux et puis aussi des jeux au pied ou des chandelles ou des choses comme ça qui sont assez techniques à réaliser quand même, tout de même. Et puis c'est du combat aussi, parce que
avant tout.
Ouais, c'est ça, des plaquages,
du contact,
c'est ça, des marrons des fois comme ils appellent ça. Et puis c'est de la stratégie aussi, puisque pour avancer il faut faire des passes en arrière et c'est compliqué d'avancer en faisant des passes en arrière, donc c'est beaucoup de gain de terrain, ils appellent ça, avec du jeu au pied et puis des rucks comme on appelle ça, où il y a des joueurs qui viennent s'entasser, on sait pas trop pourquoi, mais bon, ça fait avancer. Et puis comme on l'a vu avec la Coupe du Monde, c'est vraiment un sport qui est énormément suivi. Et puis quand on le comprend, c'est très intéressant de regarder le rugby. C'est moi je trouve ça passionnant, en tout cas quand on comprend toutes les règles, je trouve ça passionnant. Les gars, si vous avez des trucs que vous comprenez pas trop, je vais essayer possiblement de répondre à vos questions. Et puis voilà.
Mais c'est vrai que les règles sont très compliquées. C'est vrai que pour, je pense, beaucoup de Français qui étaient devant leur télé pendant cette Coupe du Monde, il y a quand même des règles qui étaient pas simples. Il y en a beaucoup, moi, que j'ai découvert pendant la Coupe du Monde. Moi, je ne savais pas que on pouvait choisir entre une pénalité et une mêlée quand il y avait une faute.
Ouais. Et... bah, y a même plusieurs cas possibles. Par exemple, je sais pas si tu vois, mais sur le deuxième essai de la France, ouais. Dupont, on obtient une pénalité et Dupont, il joue vite. Enfin, il tape le ballon avec son pied, il reprend dans sa main, il fait la passe à Movaca qui marque l'essai. Ça aussi, c'est une possibilité ouais, pour, ouais. De la pénalité. Ouais, du coup, il y a trois ou quatre possibilités, je crois. On peut du coup trouver la touche
ouais.
au pied, bah, marquer dans l'embut, la mêlée, et comme l'a fait Dupont, le ballon porté, ils appellent ça. Donc, tu joues vite au pied et après. Bah,
ouais, ça, c'est ouais, comme au foot, le jeu rapide.
Ouais, voilà, c'est ça.
Là, c'est le pick and rush, quoi.
Ouais.
Mais oui, mais en tout cas, t'as quand même essayé d'expliquer pas mal de règles. C'était quand même déjà assez intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent pas facile quand on n'est pas dans ce milieu-là. Ouais,
c'est,
et que
c'est pas mal d'interprétation de la situation, ouais. Souvent pour certaines fautes, certains en avant, etc.
C'est voilà. Assez
ouais, c'est très complexe pour les arbitres qui ont fait débat.
C'est exactement, on en reparlera. Rapidement, peut-être juste une petite question. Est-ce que tu peux rappeler un peu les postes peut-être qu'il
ouais,
peut y
ouais,
avoir
ouais, ouais.
Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs lignes.
C'est ça.
Donc,
du coup, je vais un peu résumer. De 1 à 8, on va dire, c'est les costauds. C'est du coup ceux qui sont dans la mêlée. Les joueurs de 1 au numéro 8, ils sont là surtout dans les combats, dans les rucks. On appelle ça les rucks. C'est au milieu du terrain, c'est quand on essaye d'avancer et on rentre dans l'adversaire tout droit en frontal. Ensuite il y a le 9 et le 10, ça c'est je pense les deux postes les plus importants. Le 9 c'est du coup Antoine Dupont, notre capitaine, et lui il sort le ballon des rucks. Donc quand par exemple les numéros de 1 à 8 ils vont au combat face aux adversaires, le 9 il est là pour ressortir le ballon et distribuer. Le 10, il est souvent là pour jouer au pied, mettre les chandelles ou des trucs comme ça. Il est surtout là au soutien du numéro 9. Et puis après, il y a les ailiers qui sont les 11 et 14. Eux, ils sont sur les côtés des terrains et souvent, c'est ceux qui courent les plus
notamment
vite.
Notamment Damien Penaud, qu'on voilà, a beaucoup vu et qui a été... enfin, qui marquait beaucoup d'essais. Je crois qu'il a le record en France de
non,
d'essais.
Pas encore. C'est, non, pas encore. C'est Serge Blanco qui l'a. Et,
ouais, il est...
ouais, il est à 3 ou 4 essais. Ouais,
ouais il lui manque... Il aura pu les rattraper.
Prochain Six Nations.
Ouais, je pense
peut-être. Qu'il y sera. Logiquement,
ça devrait se faire.
Ça devrait changer.
Il est pas en fin de carrière, donc.
Non, c'est ça.
Il a le temps.
Et puis après, si je me trompe pas, les 13 et 12, eux, ils sont là à la. Je sais pas comment expliquer ça, mais ils sont en soutien encore du numéro 10. Ils sont juste derrière le numéro 10 ouais. Et souvent eux aussi ils courent assez vite.
Ils sont le plus loin sur le terrain, enfin le plus en retrait. Et
avec le
notamment c'est
le 15.
C'est
le
ça.
15, c'est celui qui est tout derrière, on appelle ça l'arrière.
Ouais.
Et nous c'est Thomas Ramos, du coup c'est notre buteur aussi.
Et
eux ils utilisent beaucoup le pied et ils couvrent le terrain, donc ils sont souvent loin des actions.
Ah puis lui son but ça va être plus être sur les coups de pied longs
voilà,
qui vont se rapprocher de la zone d'embut, de capter le ballon. De le poser dans le but pour justement arrêter l'action en cours et reprendre la main. Quoi.
Et puis, on aurait peut-être dû faire ce tuto avant la Coupe du Monde,
ouais,
ça aurait
été
pratique pour comprendre. Mais non, c'est bien, mais c'est très bien d'expliquer
maintenant. Et juste un dernier truc aussi, il y a les numéros 1, 2, 3, eux c'est les piliers, c'est souvent les plus costauds puisque
bien
c'est
sûr.
Ceux qui sont devant dans la mêlée. Et le 2, il se charge de faire la touche, donc de lancer à la touche.
Ouais.
Et c'est souvent soit le 5... Le 6 et le 7 qui récupèrent, qui sautent
ouais,
pour.
Qui saute, ouais, ouais,
voilà, c'est ça.
Pour voir sur les touches. Eh ben, merci beaucoup, Clément.
T'as rien.
Pour ce petit point rugby. Ça permettra de, au moins, avoir une continuité pour ceux qui n'ont peut-être pas compris devant leur téléviseur tout ce qui se passait pendant les matchs. Et donc, ça permettra de voir pour les prochaines compétitions, pour le top 14 qui va reprendre. Donc, ce sera intéressant à suivre. On va rester sur le rugby juste après la pause musicale. On va s'écouter PLK et son titre Uber et Saïd et on va se retrouver juste après pour débriefer ce fameux France-Afrique du Sud.
La haine au fond des yeux comme Hubert et Saïd. Les yeux dans les bleus comme Marcel Desailly. J'ai peur des scandales, aucune meuf me salisse. Des contrôles routiers et des tests de salive. Des comptes cachés dans un appart brosson. Toi t'es pas allé mais tout égale le fond. Résultat des courses, t'es tout seul dehors. Tu marches avec une lame dans ton caleçon. La rue c'est pas marrant, pour toi y'a pas de garant. Faut pas se fier, j'te jure ni au bien on s'arrange. On défile à mort, fonce des A240. C'est sûr qu'on vivra moins longtemps que nos grands-parents. Toujours 2-3 joints coffrés dans la chaussette. Toujours Ena écrit sur la pochette. Le daron Hagar, j'peux pas prendre la grosse.
stage, je peux te faire des problèmes, te frapper pour un chèque.
Donc à quitter l'école, casse le check-in de l'épaule. Fais pas tes heures de code, tu feras des anecdotes. Donc à quitter l'école, casse le check-in de l'épaule. Fais pas tes heures de code, tu feras des anecdotes. Je sais que j'ai manqué des choses, que j'ai grave des lacunes, mais j'ai revendu les doses. Donc je vais faire de la thune. J'ai chanté bourré,
j'ai chanté bourré.
Au clair de la lune, j'ai un vide en moi,
j'ai un vide en moi.
Peut-être pour ça que je fais. Donc à quitter l'école, casse le check et l'épaule. Fais pas tes heures de
corps,
tu feras des anecdotes. Donc à quitter
l'école,
casse le check et l'épaule. Fais pas tes heures de corps, tu feras des années d'or.
Avec le temps j'ai pardonné, ouais. Je fais de la musique à Madonna. J'oublierai pas ce qu'on m'a donné, non, 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 non. On se connaît depuis la Morvonne. Mais tu nous fais des engueulades pour des likes ou des abonnés. Dans un gros moteur allemand, j'oublierai toutes mes peines de cœur. Sur de sortir blessé comme ta combat de barnacle. Vas-y dis-moi je t'écoute, on sait faire quoi à nous à part le beurre. Je peux dire si c'est de la frappe, mais pas besoin de sentir l'odeur. Fais ta peine sans faire de la peine. Fais ta paye sans faire la paix, on casse un tête, on parle après. On verra bien qui parlera fort, on verra qui fait des efforts. On verra qui voudra la guerre, on verra qui parlera au port. C'est ça la réalité, tout le monde est calibré. Même des types de 15 ans peuvent venir t'allumer. Les problèmes s'additionnent mais ils veulent pas s'annuler. J'aurais dû continuer l'école, je crois qu'ils m'ont bien niqué.
Je sais que j'ai manqué des choses, que j'ai grave des lacunes, mais j'ai revendu les doses. Donc je vais faire de la thune. J'ai chanté bourré au clair de la lune. J'ai un vide en moi, peut-être pour ça que je fais. Donc à quitter
l'école,
casse le check et l'épaule. Fais pas tes heures de
corps,
tu feras des anecdotes. Donc à quitter
l'école,
casse le check et l'épaule. Fais pas tes heures de
corps,
tu feras des anecdotes.
Donc à quitter l'école.
C'était PLK et son titre Hubert et Saïd. On est de retour dans Génération Sport. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr ou encore sur le DAB+. On est toujours avec Faustin, Clément et Cédric pour revenir sur toute l'actualité sportive internationale. Et l'actualité la plus récente, la plus chaude et la plus frustrante, c'est cette défaite de l'équipe de France de rugby en quart de finale de la Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde même, avec cette voilà cette défaite 29 à 28 très rageante d'un tout petit point face à l'Afrique du Sud, on rappelle quand même nation championne du monde en titre. Voilà, c'est vrai qu'on avait quand même fait beaucoup autour de cette Coupe du Monde, en tout cas des chances des Bleus, puisque voilà c'était pas juste. On n'était pas juste le pays hôte, on était aussi le favori. Il y a eu cette invincibilité pendant très longtemps. Il y a eu des grosses victoires qui ont redonné du baume au cœur, on va dire, aux supporters français. On a une très belle génération, une très belle équipe, un très bon coach. Et là, dimanche soir, est arrivé un petit peu le drame avec cette grosse première mi-temps. 6 essais, ce qui est quand même, je crois qu'il n'est jamais vu sur une mi-temps dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est quand même assez... Déjà, le match était quand même assez passionnant. La physionomie du match, c'est quand même les Bleus qui ont le ballon la plupart du temps. Les Sud-Africains qui exploitent un peu toutes les failles. Et puis à l'arrivée, la deuxième mi-temps n'est pas forcément très bonne pour les Bleus, qui profitent pas non plus aussi également d'une supériorité numérique et qui a un petit peu de mal à inscrire, à faire le break, à inscrire davantage de points au compteur. Et finalement, donc c'est les Sud-Africains qui l'emportent d'un point. Alors évidemment, autour de ce match, il y a eu ces polémiques. Alors évidemment, les Bleus n'ont pas fait le boulot sur la responsabilité de l'arbitrage. C'est une question qui peut être posée pour certaines personnes, puisqu'il y a eu des erreurs, on va dire. Alors manifeste, je sais pas, mais en tout cas des erreurs très frustrantes du côté contre les Français. On va revenir là-dessus avec les gars. Je vais peut-être d'abord te laisser la parole, Cédric. Quel a été ton sentiment sur ce match, même si on ne veut pas mettre la faute évidemment que sur l'arbitre. Quel a été ton sentiment premier sur cette défaite, enfin pas humiliante, mais très dure hein, que c'est.
Bah, tu vois ma réaction tout de suite après le match. Pour moi, je trouvais que l'arbitrage était pas forcément le meilleur qu'on puisse avoir, mais en soi, je trouvais que ça avait été quand même assez bien géré. Et bon voilà, après quand avec le recul et puis qu'on a vu des nouvelles angles de, sur certaines fautes, tout ça effectivement, c'est contestable. Après bien sûr c'est un facteur qui nous a peut-être au final bien handicapé effectivement, mais ce qui nous a fait défaut c'est un peu de chance. Quand on tape, je sais plus si c'est une pénalité ou un essai, et qu'il rebondit sur la barre.
C'est une pénalité.
Sur une pénalité. Ouais. Et là, on pouvait prendre
3 points en plus,
ouais. Alors qu'il y avait, je crois, 6 ou 7 points d'avance. Donc, on voyait déjà que c'était bien serré.
Ouais.
Bah voilà, il y a ça. On n'a pas été niveau défense dès l'entrée, j'ai trouvé.
Ouais.
Autant d'habitude, c'était plutôt l'inverse. On était en difficulté sur l'attaque dès l'entrée de match, et on se faisait soit contrer, soit les premiers essais étaient marqués par l'adversaire du jour. Là, c'est vraiment la France qui a fait bloc pour aller marquer ce premier essai. Et derrière, bah, j'ai trouvé que ça a pas suivi derrière pour la défense. Alors, attention, quand on voit le premier essai, comment il est marqué. Le départ qu'il nous fait, le Sud-Africain, c'est très beau. Hein, s'il y a rien à dire, il se fait attraper, ça fait un très beau plaquage, ça fait une très belle image. Mais le voir partir comme ça, c'était très beau aussi. Donc ça a évolué pendant le match, c'était serré. On a peut-être été moins fort dans les impacts en termes de mêlée ou des fois sur les rocs pour aller gratter du terrain. Des fois, ça s'est vu, il y a des décisions qui étaient pas forcément les meilleures, je pense. Des fois, il y a faire un coup de pied en avant pour faire une chandelle, essayer de récupérer le ballon. On s'est souvent fait punir là-dessus. On aurait pu décaler. Je trouvais que ça marchait bien quand on décalait, qu'on les perturbait un petit peu. Alors, on gagnait pas forcément beaucoup d'un coup, mais par petits coups. Et puis, bah, après, c'est... Ce qui est beau, c'est peut-être très rare quand même, c'est que des deux côtés, tout le banc est rentré. Ça a bien tourné des deux équipes.
C'est toujours comme ça, votre pied.
Ouais, mais là, tu vois, je trouvais que sur les autres matchs, on le sentait moins.
Non, c'est généralement pratiquement tout le banc qui rentre.
Parce que d'habitude, tu vois, c'est pas le genre de détail que je fais attention, mais là, j'ai trouvé, voilà que ça a peut-être été aussi une des clés qui a fait qu'il y a eu une baisse de. Deux niveaux, plus de notre côté que sur l'Afrique du Sud. Et puis bon, voilà, enfin, ça joue pas grand chose. Hein, au final, c'est rageant sur le moment, mais bon, il y aura des regrets juste parce que il y a un truc qui a cloché, mais que c'est pas forcément dans notre jeu, dans notre organisation.
C'est le réalisme.
C'est le rugby moderne.
C'est l'effet de jeu un petit peu. Clément, toi, du coup, l'expert un petit peu rugby autour de cette table. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je pense que ce qui nous punit, c'est surtout les erreurs. Enfin, des petites erreurs qu'on paye cash finalement, puisque, enfin, il marque 3 essais. 3 essais, je crois. Non.
C'est 4.
Ouais, 4 essais. Je pense qu'il y a 3 essais qu'on peut avoir pour nous où on fait des petites erreurs je pense que c'est juste la pression qu'on fait pas habituellement et qui nous punissent. Enfin, Ramos, après, il y a aussi, je pense, une part de, je sais pas comment dire ça, mais l'Afrique du Sud, avait j'avais l'impression qu'ils ont l'habitude des grands rendez-vous et qu'ils avaient pas peur. Par exemple, un fait marquant sur un renvoi de Ramos au pied quand ils font du gain de terrain là, et bah il y a l'Africain qui on peut faire ça quand on est dans ses 22 mètres, on peut lever le poing et décider de faire un renvoi, mais toute l'équipe revient derrière ses 22 mètres et ils font le renvoi. Et là ils demandent la mêlée et décider de faire une mêlée dans ses 22 mètres, dans ses propres 22 mètres, c'est risqué, de se faire contrer.
Oui,
là, tu vois, alors qu'ils étaient menés, tu vois qu'ils ont pas peur ils avaient pas peur de la France, alors que c'est quand même, l'une des plus grandes nations. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que.
Ouais, c'est peut-être aussi mentalement qu'on a qu'on a perdu ce match.
C'était bien 4 essais.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était. T'as pu voir toi le match, Faustin?
Ouais, bah ouais, je l'ai vu pas en entier, voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a frappé, c'est il y avait, j'ai l'impression, beaucoup plus d'agressivité sur du côté sud-africain que chez nous. Peut-être parce que aussi on était beaucoup plus en phase de possession et eux étaient plus en phase de contre. Mais justement, dans ces phases de possession, quand on enchaînait les passes, là, je voyais vraiment la ligne sud-africaine qui nous montait dessus, vraiment comme, comme un raz-de-marée. Et c'est là souvent qu'on a fait des petites fautes de main qui nous ont fait prendre des comptes, notamment du, je crois que c'est le numéro 12 sud-africain. C'était une vraie
le 11. Ouais, Chelsea Colby, ouais, il joue voilà, à
une
tout
vraie pile électrique. Qui nous a mis des grandes vitesses et qui a marqué des essais. On a pris plein d'essais sur ça. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, même si j'étais aussi pas mal frustré sur le coup de l'arbitrage, où peut-être que je comprenais pas tout aussi, mais il me semblait qu'il y avait des choses un peu illégales, enfin, c'est un grand mot, illégal, qui n'étaient pas dans les règles du sport, qui ont été effectuées par les Sud-Africains, et sur ça, j'étais un peu frustré.
Ouais, puis
il y a le carton jaune qui aurait pu être devenir rouge.
C'est ça, étrange. Après,
entre autres, voilà, qui aurait pu être un tournant dans le match. Bon, l'avantage c'est que c'est arrivé quasiment à la mi-temps, donc je pense que là-dessus ils ont pu bien étudier les images. Et,
oui.
Ça n'a pas influencé. Ça a pas influencé tant que ça en fait le match. Parce que bon, on a eu 10 minutes derrière enfin pas de possession, mais de jeu en supériorité. Et on n'a pas forcément trouvé la faille à ce moment-là. Donc,
On a quand même bien poussé, mais on n'a pas réussi.
Oui,
pas eu d'essai, pas eu de.
Et puis, sur la remarque que tu faisais, Faustin, tout à l'heure, quand tu disais qu'ils avançaient comme un raz de marée, bah, en fait, c'est que nous, les Français, on n'arrivait pas à sortir vite des rucks, comme je disais tout à l'heure. Dupont mettait beaucoup de temps. Il a fait la remarque après le match. Ils n'arrivaient pas. Ils étaient suffoqués. Ils étaient complètement comprimés par l'Afrique du Sud qui montait à chaque plaquage et les Français peinaient à relancer et à aller vite, à faire vite des changements d'ailes, tout ça. Et du coup, c'est aussi ça. Qu'a énormément joué pendant le match.
Souvent, moi, je les ai vus faire des trucs sur les rucks où ils mettaient trois joueurs l'un derrière l'autre. Ils sortaient la balle et comme ils n'arrivaient pas à enchaîner les passes, ils envoyaient juste un grand coup de pied pour essayer de gagner du terrain. Et ça, c'est un truc que vraiment, ça m'a frappé aussi parce que je ne le voyais pas souvent avant. Cette forme, vraiment, c'est une formation d'une chenille. Trois joueurs pour sortir le ballon pour avoir la place de mettre un coup de pied.
Mais voilà, bon, c'est une défaite frustrante évidemment pour l'équipe de France. Une nouvelle, j'ai envie de dire, parce que j'y ai pensé un petit peu avec le recul et à froid. Je me souviens il y a un an, on avait fait un petit débat autour de 4 coupes du monde pour nos équipes masculines françaises en sport co, sur les 4 on va dire sport co majeurs en France, avec donc la Coupe du monde de football qui était à l'époque se jouait avec la France qui était en finale. Et qui était favorite. On a eu la Coupe du monde de handball avec pareil les Bleus favoris, la Coupe du monde de basket les Bleus favoris et sur le rugby, les Bleus favoris. Et c'était pour ça qu'on s'était dit, tiens, on peut faire un peu quelque chose là-dessus pour voir un petit peu quel en était. On est un an plus tard. Le bilan, c'est qu'il n'y a aucun titre de Coupe du Monde. Il y a 2 finales perdues en foot et en hand. Il y a un fiasco, désolé Faustin, en basket. Et il y a, y a de la frustration, on va dire, sur le rugby. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu. Alors, chaque cas est différent, attention là-dessus.
C'est quand même la deuxième fois d'affilée que la France pas minimum en demi-finale, quoi.
C'est ça, mais c'est quand même assez rare, mais c'est vrai que ça a été quelque chose de déceptif, hein. On se voyait peut-être avec plusieurs étoiles en plus.
On est passé à côté d'une très belle occasion en pas mal de sport, là.
D'enchaîner, exactement. Et puis quand on voit un peu tout ça, alors, faut pas s'inquiéter pour les JO, évidemment, puisque bon, déjà, le rugby, ce sera du rugby à 7, même s'il y aura Antoine Dupont qui est pressenti pour y aller.
Je pense qu'il y en a plusieurs du 15 de France qui pensaient déjà, à voir avec la saison en club comment ça va se passer, mais L'équipe déjà de base, elle est déjà pas mal à ce niveau-là. Donc si on a des renforts du 15 de France, ça peut être intéressant.
Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, le bilan global, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de défaites qui sont jouées sur le mental, et justement ce rôle de favori qu'on a mal joué, et à chaque fois avec des
faits de jeu,
des faits de jeu, et puis surtout des raisons différentes. C'est-à-dire que voilà, le basket c'était peut-être un peu le groupe, le hand peut-être pas assez le niveau sur la finale, le foot pareil, la finale un peu ratée, ou pareil le jeu était pas forcément.
Si tu prends les causes, c'est surtout mental et problèmes d'arbitrage généralement qui font que.
Bah c'est ça aussi un peu la frustration, c'est que la France Argentine, donc la finale de foot, on ressort du match. Alors évidemment avec les sentiments, on a été nul, et puis après c'était complètement fou, etc. Mmh. Puis après on refait le match, et puis le penalty, mais bon, on va pas revenir là-dessus.
On aura le temps de bientôt d'en reparler avec le Ballon d'Or. Exactement. Je pense de cette Coupe du Monde.
Exactement. J'avoue, ça arrive très bientôt, on pourra en parler un petit peu. Mais voilà, bon, écoutez, les équipes de France qui sont peut-être pas forcément, en tout cas, le rôle de favori ne leur va pas, peut-être pas assez bien. Et c'est vrai que pour certaines d'entre elles, je pense qu'un peu d'humilité entre guillemets aurait permis peut-être plus de travail positif, et de travailler un peu mieux, parce que en tout cas pour notamment le rugby, est-ce qu'on a déjà eu une sensation à ce point-là que la France était favorite sur une Coupe du Monde? Peut-être pas autant. Moi, j'ai trouvé là, y avait dans les médias, on en faisait beaucoup autour de ça quand même.
Il y a peut-être 199 qu'on fait la finale en Nouvelle-Zélande de mémoire contre la Nouvelle-Zélande. Où c'était pas forcément la plus belle équipe de la Nouvelle-Zélande, et pareil, ça s'est joué. C'est un peu l'impression, je crois, que j'ai l'histoire un peu de l'équipe de France de rugby. C'est qu'il y a toujours des petites injustices, au niveau de l'arbitrage qui font que, des années après, quand on prend vraiment du recul et de l'analyse, on se dit, bah oui, effectivement, il y a une grosse faute qui coûte, tel titre, pas forcément par notre faute à nous, mais par plus des avantages d'un arbitre.
C'est vrai que surtout
pour un pays ou un autre,
surtout
contre le match de la Nouvelle-Zélande, c'était plus un arbitrage dit type maison.
Ouais.
Pour les Néo-Zélandais, enfin tu vois, là il y a plein de petites histoires. Il y a la dernière Coupe du Monde quand on se fait sortir. Pays de Galles,
on prend un carton rouge, mais c'est logique.
Non, ouais, mais bon, t'as tout ce qui va autour de cet arbitre-là par rapport à l'équipe de France, où clairement il a des antécédents avec l'équipe, tu le mets pas. C'est pour une question d'équité, tu sais que il va prendre parti naturellement.
Ouais, bon, après là c'est peut-être qu'on est un peu chauvin aussi.
Non, parce qu'après bon, il l'a avoué lui-même, avec toutes ces conneries qu'il a fait, donc voilà, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un peu l'histoire de l'équipe de France, c'est qu'il y a toujours un petit truc
qui va pas,
et même quand on est au top.
Exactement, c'est ça la frustration, évidemment.
Ça fait mal à la tête.
Au top. Avant d'aller sur les actus internationales, Cédric, est-ce que tu as une breaking news sur les Ducs d'Angers? En attendant que tu nous dises ça.
Ça a l'air d'avoir bougé, mais on va faire un point
sur les Loups d'Angers qui sont tenus pour l'instant en échec un partout dans leur match de ce soir contre la Romagne. Un partout, victoire notamment de Joao Geraldo lors du deuxième match, et défaite en 3-7 de Hampus Nordberg. Voilà un petit peu pour le tennis de table. Pas de but, donc 0-0. 0-0 entre les Ducs d'Angers et Anglais.
Il y a déjà des pénalités,
évidemment.
Dans le match, à la deuxième minute, une crosse haute. Donc ça a dû jouer un petit peu en supériorité numérique en début de ce match.
Faustin, tu as de l'actu basket à nous proposer?
Ouais, je vais parler un peu de NBA.
Ouais.
Là, j'ai continué un peu de faire le tour de la pré-saison, parce que toutes les équipes ont repris le chemin du parquet. On est pile à une semaine de la reprise officielle de la NBA, qui démarra par le match Lakers contre Denver. Denver qui a donc repris le jeu. Et leur star Nikola Jokic a fait un retour impressionnant. Il nous a une fois de plus montré qu'il peut vraiment tout faire sur le terrain. Et Denver semble être en route pour conserver leur titre cette saison et un réel contender. Ensuite, on a le premier match de Damien Lillard sous ses nouvelles couleurs, qui nous a permis de voir la domination absolue qu'il va infliger avec son nouveau coéquipier Giannis Antetokounmpo. Et à la NBA cette saison, on a clairement là aussi un autre contender au titre NBA. Ce sera, à mon avis, j'annonce déjà mes pronostics, une finale Denver contre Milwaukee. Oh. C'est ce qu'on a fait y avoir la saison dernière, mais pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on a fait y avoir la saison dernière.
Milwaukee est sorti rapidement.
Au premier tour, oui. Non, autant pour moi, c'était Boston.
Bah, on aurait pu, mais oui, enfin, on était un peu plus loin que ça.
Voilà, mais là, c'est sans aucun doute la première fois aussi que Damien Lillard, malgré ses 11 années à Portland, est un contender sérieux au titre. Ensuite, il n'y a pas que Wemby qui fait briller le drapeau français en NBA en ce moment, car pendant cette pré-saison, c'est son ancien coéquipier Bilal Koulibaly qui s'est lui aussi démarqué avec notamment une excellente défense où on a vu une action de lui qui a tourné pas mal sur les réseaux sociaux où il contre une tentative de dunk qui ensuite amène sur un panier pour son équipe. Qui était tout simplement magnifique. Il fait aussi des choix offensifs très bons pour un rookie et ça fait plaisir de le voir à ce niveau de jeu-là dès sa pré-saison. Et il semble s'être très bien installé dans cette équipe de Washington en pleine reconstruction. Pour finir, j'ai parlé de James Harden qui actuellement est un joueur des Philadelphia Sixers. Mais cet été, il y a eu certaines révélations suite à des promesses faites de la part de son general manager de la franchise qui n'ont pas été tenues. Il a donc traité son general manager de menteur, etc. et a demandé d'être transféré. Rien n'avait été fait, mais c'était il y a 5 jours, il me semble, que les Clippers de Los Angeles ont formulé une offre pour recruter James Harden. C'est pas la première de cet été. Elles ont pour l'instant tout été refusé. Là, il y a eu aucune info qui a leaké dans le contenu de l'offre. Rien n'a non plus fuité pour la position des Sixers. Mais en tout cas, si James Harden rejoint les Clippers, ça ferait une équipe avec Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook et James Harden. Et ça fait kiffer.
C'est vrai que ça va faire une très belle team. Merci à toi Faustin pour ce petit point NBA, la NBA qui va bientôt reprendre. J'imagine que tu trépignes d'impatience. Il a très très hâte puisqu'il a passé pas mal de choses sur cette saison.
En tout cas, ça se passe mal en Euroleague pour les Français actuellement.
Avec
l'ASVEL qui est en train de jouer.
Oui.
63-42 pour Istanbul.
Très bien, le FS.
Il nous habitue à ça.
Ça va être compliqué, j'ai l'impression, cette saison pour l'ASVEL.
Déjà, l'année dernière, ils avaient fini dernier. Ils sont partis sur la même base.
Peut-être pareil. Deux petites infos avant de terminer sur le football. Le CIO a validé ce lundi, donc, la présence de plusieurs nouveaux sports. Alors, nouveau et pas nouveau, vous allez le voir, pour les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles, avec donc le squash, le lacrosse, c'est un truc canadien, il me semble, le flag football, donc on connaît un petit peu grâce au club des Yankees d'Angers, donc en gros c'est du football américain sans contact. Il y a du baseball, football, softball, pardon, mais c'était déjà présent, il me semble, sur les précédents Jeux Olympiques.
Il a peut-être été, oui, en démonstration déjà.
C'est ça. Et le cricket qui également fait son apparition, donc un peu similaire aussi à ce sport du softball. Voilà pour les 5 nouveaux sports qui aura.
Je pense que le cricket, ça va être vraiment le sport qui va être en présenté, mais je suis pas sûr qu'il sera accepté.
C'est officiel, hein. C'est le CIO qui.
C'est officiel, ce sera lundi.
Ça sera à 2028, ce sera une. Voilà.
Parce que des fois, ils annoncent en même temps les sports qui seront en démonstration de façon
non,
officielle.
Non, là, c'est officiel. Il faudra concourir pour.
Au moins, on sait à peu près quel pays est favori. Hein.
Médaille d'or, l'Inde. Bref, voilà un petit peu pour les infos autour des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, même si évidemment ce qui nous intéresse c'est 2024 avec Paris.
Paris, entre temps, c'est en train d'être finalisé, mais peut-être des retours d'athlètes russes pour les JO. Alors apparemment pour l'instant ce serait plus sur les Paralympiques où il y aurait eu des discussions bien avancées, où il y aurait une tendance peut-être à un retour. Pour les JO valides, j'ai envie de dire, on ne sait pas encore.
Très bien, merci pour l'info Cédric. Petite info également, tennis, pas beaucoup d'actualité, même si le Masters approche à grands pas. Il y a eu donc ce Masters 1000 de Shanghai qui a eu lieu la semaine dernière et c'est le Polonais Urkacz qui s'est imposé en finale 6-3, 3-6, 7-6 contre le Russe Rublev. On va pouvoir finir un petit peu sur le temps qui nous reste avant de libérer les studios à l'équipe d'Imaginaire. On va parler un petit peu donc de cette qualification des Bleus pour l'Euro 2024. Les Bleus qui sont assurés de terminer dans le top 2 de leur groupe, voire même très probablement également premier. En tout cas, le top 2 est qualifié. Hein, les deux premières places sont qualificatives. Donc, les Bleus vont être en Allemagne sur l'été 2024. C'est plutôt pas mal. Bon, on s'y attendait, évidemment, vu la poule. Cette belle victoire 2-1 des Bleus face aux Pays-Bas avec ce doublé très beau de Kylian Mbappé. Ce soir, dans 8 petites minutes, il y a le coup d'envoi du match entre ce match amical entre la France et l'Écosse. Pour la compo des Bleus, on est sur du classique, même s'il y a quand même quelques innovations. Maignan dans les buts, ça on connaît. Klose reste latéral droit après sa bonne performance face aux Pays-Bas. Et c'est Benjamin Pavard qui va prendre l'axe en compagnie de Konaté. À gauche, ce sera Théo Hernandez. Le milieu de terrain 100% madrilène avec Griezmann, Tchouaméni et Kamavinga. Et puis une attaque classique Dembélé, Giroud, Mbappé. Du côté écossais, il n'y a pas de Robertson, hein, vous savez, le latéral gauche de Liverpool. Il n'y a pas non plus Kieran Tierney hein, qui jouait du côté de l'Arsenal. Mais on pourra compter sur notamment Scott McTominay de Manchester United.
Bon, moi, je suis déçu. Hein. Il aurait dû mettre Giroud dans les buts.
Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Belle performance.
Il a fait une super performance hein, à la place.
C'est vrai.
Beau. Il y a un gardien de la semaine en Serie A.
Exactement. Ils ont pas du tout forcé sur le délire, mais bon, bref. Ils ont pas du tout, bref. Et sinon, pour les espoirs qui jouaient donc aujourd'hui contre Chypre, ça vient de se terminer. Victoire 9-0 de l'équipe de France Espoir de Thierry Henry dans ses éliminatoires pour le prochain Euro Espoir.
Et doublé de Cherki.
Également.
Ça doit te faire plaisir, ça.
Ouais, bon, il faudrait qu'il en fasse avec son club. Ça serait quand même plutôt pas mal. Pour revenir, sur les Bleus, ça reste quand même une qualification qui est très bonne. Enfin, ça reste satisfaisant.
Ouais.
Moi, ce que je trouve intéressant
le tableau qu'on avait en soi était pas difficile.
Non.
Pour se qualifier, c'est plus la manière qu'on peut encore améliorer, je trouve.
Oui, il y avait quand même des matchs assez ennuyeux. Grèce.
Même le dernier, là. T'es lourd hein, comme match à regarder. Hein.
Après, ouais. Les Pays-Bas, c'est pas mauvais non plus. Donc, c'est normal qu'on galère plus que contre la Grèce.
Ah ouais, mais là, je trouvais, enfin, tu vois.
Bah, c'est le jeu des champs, quoi.
C'est...
Même si j'ai trouvé que. Enfin, je trouve qu'il est de plus en plus offensif dans ses choix. Et c'est plutôt pas mal parce que Franchement, le Klose à droite, c'est quand même plutôt ce qu'on appelait un peu de nos voeux, un latéral beaucoup plus offensif que Benjamin Pavard.
Ouais, c'est clair.
Et enfin, Benjamin Pavard va pouvoir jouer. En défenseur central, donc et puis surtout avec un Griezmann dans le milieu, donc c'est offensif, donc c'est plutôt, enfin c'est pas mal. Alors je suis pas le premier fan de Deschamps hein, évidemment, mais c'est des progrès qu'on voit.
Ce qui est rassurant, c'est un seul but encaissé.
Ouais.
Ça veut dire qu'on a une défense qui, en tout cas,
un gardien
un peu plus solide. Et voilà, le changement de gardien aussi, ça aurait pu être compliqué de prendre la situation.
Géré.
Et Maignan, pour l'instant, rien à dire quoi.
C'est très très bien géré.
Les espoirs aussi qui rassurent parce que eux qui vont jouer au JO et puis
avec notamment évidemment Thierry Henry. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous les gars d'avoir été avec moi sur cette émission de Génération Sport. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une prochaine émission de Génération Sport. Ce sera Faustin qui sera à l'animation. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée sur Radio G.
Le jour où on m'a dit...